La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h comme chaque jour le débat des grandes voix. On va bien sûr débattre autour de l'actualité avec ce soir autour de vous Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue
Bonsoir,
dans ce studio. Vous avez regardé, j'imagine, cet après-midi les propos entendus, les propos de des leaders syndicaux qui sont sortis du bureau d'Édouard Philippe. Et là, celui qu'on attend évidemment, c'est Laurent Berger pour la CFDT. Peut-être là, dans les toutes prochaines minutes. En tout cas, ça dure. Si ça dure, est-ce que c'est bon signe? Qui veut démarrer?
Oui, si ça dure, surtout avec la CFDT, ça veut dire qu'on engage quand même une discussion de fond. Donc, on a bien vu hier, quand on n'a rien à discuter, ça donne ce qui s'est passé avec Martinez.
Avec Philippe Martinez. C'est-à-dire
une réunion ric-rac de moins de 30 minutes.
Et
là,
qui est sorti si en grise mine.
Plus ça dure et plus les chances d'un pré-accord, en tout cas d'un début de négociation entre les syndicats modérés réformistes, comme on les appelle, c'est-à-dire surtout la CFDT et l'UNSA qu'il ne faut jamais oublier.
Et la CFTC.
Et la CFTC, et peut-être même la CGC, on ne sait pas. En tout cas, les syndicats dits modérés, c'est plus facile à dire, ça veut dire qu'il y a des ouvertures. On l'a senti avec l'UNSA.
On l'a senti avec Laurent Escure de l'UNSA.
Vous avez interviewé. On voit bien qu'il y a des avancées. Alors, ces avancées, qu'est-ce qu'elles peuvent. Il y a deux types d'avancées. Il y a des avancées sur les points qui sont particulièrement. Demandé par les syndicats, c'est-à-dire par exemple la pénibilité, je prends cet exemple-là, ou les 1000 euros, etc. Et puis il y a le fameux pivot. Que se passera-t-il sur le pivot? Mais on va aussi, il va y avoir un aménagement, je ne sais pas de quelle nature, mais un aménagement du pivot.
En tout cas, il y en a un qui n'a pas pivoté. C'est Philippe Martinez. Oui. Mais il a laissé percer le bout de l'oreille aussi, puisqu'il a annoncé. Je lis la phrase que m'a fait remarquer d'ailleurs Sébastien Krebs, je crois que vous l'avez diffusée, Philippe Martinez, il dit « il y aura des annonces demain, mais il ne faut pas traîner ». Quand il dit qu'il ne faut pas traîner, c'est pour évidemment la grève, vraisemblablement, la persistance de la grève.
Mais là, ce qui se passe, c'est le mandat qui a vraiment été donné à Édouard Philippe, c'est de trouver les voies de sortie de crise. C'est l'expression qui m'a été donnée à la mi-journée par un ministre de premier plan. Là, c'est très clair, Édouard Philippe doit demain soir avoir un début d'éléments sur lequel
concrets.
Derrière on négociera le
c'est
détail.
Ça.
Mais
c'est
il faut que demain soir, il y ait cette voie de passage et avec une autre indication importante, il faut offrir une porte de sortie digne à la CFDT. Donc c'était vraiment le ton à la sortie du Conseil des ministres ce matin et c'est ça qui est en train de se passer. Ils sont en train de chercher les conditions de sortie dignes pour la CFDT. Qu'est-ce que ça peut être ces conditions de sortie? Parce que il faut aussi qu'elle soit digne pour le gouvernement. Donc il faut sûrement que le mot H-pivot reste quand même. Sur quoi peut-être on travaille en ce moment? C'est une des pistes au milieu de plein d'autres. C'est sur un H-pivot qui serait modulé en fonction de la pénibilité du travail des uns et des autres. Est-ce que ça suffit à Laurent Berger? C'est pas certain. Ça, c'est ce qu'espère le gouvernement.
C'est
sûrement pour ça que
ça
dure. Parce que c'est compliqué pour la CFDT. On l'a dit hier soir déjà un petit peu autour de cette table. C'est compliqué d'être digne si l'H-pivot reste. Alors après... On peut
changer une formule.
C'est l'habillage financier
Mais là, si ça dure, et encore heureux, j'ai envie de dire que ça dure. Hein, on est au 14e
donc
jour de
aménagement,
grève.
Donc un aménagement de l'âge pivot, c'est là-dessus qu'on se dirige. Charles, vous me dites dans une seconde ce que vous en pensez, votre lecture, bien sûr, juste après.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous. Ce soir, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1.
Tous les yeux sont braqués sur Laurent Berger, la CFDT. Dans quelle attitude va-t-il sortir de Matignon? On l'attend. En attendant, la question, évidemment, Charles Villeneuve, et on l'évoquait, c'est comment on se sort de l'âge pivot sans renoncer pour le gouvernement, sans avoir l'impression d'être forcé à renoncer pour Laurent Berger? On réaménage.
Oui, le mot-clé de celui qui s'est mis le plus dans la mouise, finalement, dans cette affaire, c'est-à-dire le président de la République qui a voulu tout faire, les trois volets de la réforme qui s'est compliqué la tâche, qui a compliqué les esprits publics au lieu de faire ce qu'il avait fait pour le prélèvement fiscal à la source, c'est d'envoyer une lettre extrêmement claire pour bien expliquer finalement à tous les contribuables ce qui allait arriver. Eh bien, c'est le mot dénaturé. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas, en utilisant ce mot, il ne voulait pas, si vous voulez, donner le sentiment de lâcher le Premier ministre, et ça c'est important, mais en même temps, de lui donner évidemment mission, comme le disait Emmanuel il y a quelques instants lorsque vous étiez évidemment en train de passer l'écran
en off,
de pub.
Comme on dit.
il lui a délivré un mandat assez large pour trouver les voies de la sortie. C'est-à-dire pas seulement avec la CFDT d'ailleurs, mais aussi avec, on l'a vu, avec l'UNSA, Gérard le rappelait tout à l'heure, aussi bien sur la retraite à 1000 euros pour tout le monde au minimum, oui, que la pénibilité.
Le totem, je disais hier soir, c'est le totem du Premier ministre, l'âge pivot. Il faut que le totem soit gardé au moins, je dirais, sur son socle, mais qu'il soit moins répulsif pour les syndicats modérés. Ouais. Alors c'est ça qui est difficile. Et en même temps, qu'on garantisse l'équilibre financier du système.
C'est ça le point
d'achoppement. Ouais. Et c'est là, effectivement, que c'est le plus difficile.
C'est le point le plus important. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs n'ont pas obligatoirement compris pourquoi il fallait cet équilibre. C'est-à-dire que ce que veut le gouvernement, c'est quand on va entrer dans le nouveau système, c'est qu'on soit à l'équilibre de façon à ce que ce système, après, s'auto-génère tout seul.
Et ils ont fait des propositions à l'UNSA et la CFDT.
Bien sûr. Et il faut voir que ce point d'équilibre, c'est complètement hors de la réforme. Ils le font uniquement pour, comme si nous, à ménage, on avait besoin d'équilibrer nos comptes, il fallait trouver une petite manière de les assainir. Et cet objectif, quand même, d'équilibrer les comptes, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout abandonné au sein du gouvernement. En tout cas, les ministres de Bercy, ils y tiennent mordicus à leur équilibre. Je ne sais pas si vous avez vu qu'également Laurent Berger, maintenant, n'est plus contre du tout cet équilibre. Donc, il faut maintenant juste trouver la bonne voie de passage.
En touchant effectivement aux réserves. Les cotisations, c'est quand même assez tabou aussi.
On a tellement de déficit.
Alors, attendez, vous me dites ça dans une seconde, mais on a Olivier qui nous appelle de Rouen. Bonsoir Olivier, bienvenue à vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Donc moi, j'aurais souhaité savoir si chaque quinquennat, chaque président veut faire sa grande réforme des retraites. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de rester sur cette ligne de dire « on ne lâchera rien », sans quoi le quinquennat finalement est terminé? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une question de principe de dire « on tient », plutôt que des marges budgétaires, parce que finalement, si le gouvernement lâche maintenant, c'est vraiment l'abandon en race campagne, le Premier ministre sera débarqué et le quinquennat sera terminé de ce point de vue-là.
Mais c'est intéressant.
Merci Olivier.
Non, mais je trouve qu'Olivier, il pose quand même l'une des questions essentielles de cette affaire, parce qu'il y a la bataille de l'opinion, et l'opinion, avec le dernier sondage ELAB, qui, je crois, a été publié tout à l'heure, il y a quelques heures, montre bien que l'opinion est de plus en plus défavorable, finalement, à cette réforme des retraites.
Oui, telle qu'elle est présentée. 7 points de plus favorable.
Et là où notre ami auditeur pose la bonne question, je trouve, c'est qu'on mesure mal le prix que le pouvoir devra payer à l'issue de ce conflit.
Mais c'est pour ça qu'il faudra pas oublier
que nous sommes à 3 mois de la première échéance électorale municipale. Chaque année, il y aura des échéances.
C'est pour ça qu'il faudra que ça n'ait pas l'air d'être un renoncement. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça passe.
Ce qu'ils disent, c'est on est bien conscient qu'aujourd'hui, tout le monde considère que nous, exécutifs, on est responsables des blocages et que ce n'est pas la CGT, FO ou Sud, et que c'est juste logique de trouver une solution de déblocage. Après, la plus grosse erreur, on l'a dit sûrement beaucoup déjà à ce micro, c'est, pardonnez-moi le mot que j'ai utilisé, c'est la foirade totale de préparation et de présentation de cette réforme. C'est quand même marrant qu'on pose aujourd'hui la question aux gens de « qu'est-ce que vous pensez de cette réforme ?» à partir du moment où moi j'ai fait le test, y compris dans cette rédaction, où chaque matin on fait une conférence de rédaction, où chaque matin on présente les éléments d'une certaine manière de la réforme, où je peux vous dire qu'une bonne partie de la rédaction n'a toujours pas très bien compris comment ça va fonctionner. Donc, ça demande un vrai effort d'aller regarder le rapport de Levoix, de lire, de s'informer.
Et pourtant, ils ont eu le temps de s'y pencher, ça fait deux ans qu'ils
bossent dessus. Ils sont toujours pas capables de sortir le simulateur.
Il est déjà au discrédit du gouvernement. Ce que tu viens de rappeler là,
c'est la méthode.
Le fiasco de la méthode, du timing et de l'ensemble du processus.
Au moins là-dessus, ils ont une faute énorme.
Le gouvernement aura déjà à encaisser le choc de ça. Mais reste après de savoir si on ajoute à ça une reculade. C'est ce que j'appelle une reculade. Il y a un recul ou une reculade? Le recul, c'est des concessions.
C'est ce que disait Olivier.
Mais la reculade, ça veut dire on mange son chapeau et dans ce cas-là, on perd sur les deux tableaux.
Mais ça n'arrivera pas. Sinon, c'est fini. Il n'y a plus de réforme.
Non, parce que c'est payé très, très pris. Très cher.
Le prix
de cette réforme qui finalement a ajouté à la confusion.
Non, puis attention, la CFDT, l'UNSA, la CFTC soutiennent la réforme par
point. Bien sûr.
Donc gouvernement se sent légitimé par le fait que.
Alors on se demande dans un instant à tous les trois, enfin bref, tous ceux qui sont là, comment on fait? Est-ce qu'on va vers les cotisations? Est-ce qu'on va vers ce fonds de retraite? Dans une seconde.
Et le débat des grandes voix continue dans un instant. C'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe.
Alors, d'une minute à l'autre, peut-être la sortie de Laurent Berger, leader de la CFDT, du bureau d'Edouard Philippe. On l'attend. En tout cas, c'est certainement avec lui que cela aura le plus duré cet après-midi. C'est lui qui clôture le bal des partenaires sociaux.
En tout cas, des grands, il y en a encore après. Il y a la CGC notamment qui reçoit.
La CGC, vous avez raison, à 20h15, je crois.
Mais ça fait partie du cinéma de faire durer. On fait durer parce qu'on sait que faire durer la négo, les gens pensent qu'il y a une négo, à juste titre.
Mais là, je pense qu'il y a une vraie négo,
Gérard. Justement, mais faire durer...
Là, je pense que chacun est arrivé avec ses modèles, ses lignes rouges.
Mais faire durer la négo avec la CFDT, qui était celle qui avait dénoncé le gouvernement il y a 15 jours, c'est une très bonne affaire. Plus ça dure, donc plus c'est une chance.
Gérard, tu sais très bien que ça va s'arrêter juste avant 20h. Pour le
20h.
Évidemment.
C'est ce qu'on appelle la communication.
C'est ça. Alors attendez, parce que la communication, c'est bien, l'âge pivot après, peut-être, mais après, qu'est-ce qui se passe avec
la
base ?
Qui paye
alors,
après ?
Qui paye, on va y venir, mais la base d'abord, parce que sur le terrain, il va falloir y aller, il va falloir leur dire qu'on a cédé ou qu'on a renoncé, ou peut-être pas employé ces mots-là d'ailleurs, pour tous ces leaders syndicaux. Mais leur base, comment s'assurer qu'elles les suivent ?
Non,
que ce
soit très dur,
à la CGT, que ce soit à l'INSA.
Si vous regardez la CGT... A priori, syndicat c'est quand même RATP. Le syndicat qui aura le plus perdu. Ils ont été en retard pour lancer la grève. N'oubliez pas que c'est l'UNSA à la RATP qui avait fixé cette date du 5 décembre. Donc c'est rarissime dans notre pays que la CGT soit à la ramasse d'un autre mouvement. Ils ont même mis du temps à se décider de partir dans un mouvement reconductible. Ça a été les derniers des gros syndicats qui sont contre à dire qu'ils allaient partir dans un mouvement. Aujourd'hui, on n'entend plus qu'eux, c'est eux qui mènent la danse. Et puis, c'est quand même vraiment la CGT, notamment du côté des conducteurs de train, qui mènent la danse. S'ils n'obtiennent rien, ça va être très, très dur pour la suite de la CGT. Puis après, effectivement, il y a un peu ce que disait, je crois, Charles hier soir sur comment Laurent Berger va réussir à faire passer le fait de ne pas avoir obtenu tout ce qu'il voulait auprès de ses militants.
Mais si Charles je me Neuve. Souviens bien, Emmanuel, la CFDT a déjà eu un avatar de cette dimension, a perdu quasiment 15% d'un certain nombre de ses salariés qui ont rejoint la CGT.
Oui. Parce qu'elle avait été considérée comme étant trop négociatrice, enfin d'acceptant trop les conditions du gouvernement. On avait dit, c'est un syndicat finalement qui s'est couché et ça leur a fait perdre effectivement une bonne partie de leur militance.
Cela étant, Laurent Berger, son secrétaire général, a annoncé clairement la couleur puisqu'il ne voulait pas de l'âge pivot à 64 ans. Il était pour le régime universel à points. C'est le cas aussi.
Lui, il est vraiment très droit dans ses bottes. Oui. Et pour le moment, c'est vrai qu'on n'entend pas, à l'inverse de 95 quand il y avait eu ces grosses crises, ou après, quand il y avait eu d'autres problèmes à la CFDT, on n'entend pas l'interne s'exprimer. On n'entendait pas beaucoup de CFDTistes quand la CFDT n'avait pas encore appelé à manifester, qui étaient quand même dans les manifestations locales. On ne les entendait pas dire « Oh là là, mais Laurent Berger n'a rien compris, regardez-nous sur le terrain. » J'ai quand même l'impression qu'il y a une forme d'unité au sein même de la CFDT. Puis la CFDT est un syndicat qui est très décentralisé, qui n'est... Alors, même si on arrive quand même à décider encore d'en haut, mais c'est un syndicat où il y a de l'autonomie à l'intérieur.
Excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai eu un moment d'égarement, mais c'est simplement parce que j'essaie d'écouter, de comprendre aussi.
Non, c'est votre concentration.
J'écoute Laurent Berger, si vous voulez tout, savoir. Oui. Alors, vous voulez savoir.
On veut savoir.
Bah oui. Alors, pour l'instant, il nous parle toujours d'un désaccord. Là, à l'heure où nous parlons, il sort d'Edouard Philippe, du bureau d'Edouard Philippe, en nous parlant quand même d'un désaccord, toujours sur l'âge d'équilibre, fameux 64 ans, cette fameuse âge pivot. Même tout a été évoqué, la pénibilité, le minimum, etc. Là-dessus, tout a été évoqué. Il nous dit, Laurent Berger, à l'instant, qu'on attend la réunion de demain, la plénière de demain. Et il n'est pas sûr, dit-il, je cite Laurent Berger à l'instant, il n'est pas sûr que les choses aient avancé d'ici demain. Alors, cette circonspection Est-elle de façade ou y a-t-il vraiment des doutes ou est-il il
vous
dit
savez,
Laurent Berger,
il ne peut pas
il est très très prématuré de parler d'une sortie de crise là.
Il est, on est au cinéma, il ne peut pas lui après avoir tant râlé
sortir avec le
après
sourire
et... du Premier ministre. Ça y est, les amis,
en deux, en trois heures, tout
est réglé.
Mais il n'empêche que le Premier ministre est pratiquement obligé de trouver de toute façon la voie de sortie.
L'aménagement, le pivot sera
compte tenu du mandat délivré, pas publiquement par le président de la République au Premier ministre, que nous rappelait tout à l'heure Dutheil, il est obligé de trouver une voie de sortie.
Alors, oui. Évidemment, Laurent Berger, on va l'entendre dans le journal de 19h. On sera évidemment à Matignon aussi avec Olivier Samin pour Europe 1. Cette sortie de crise, comment on fait? Comment on s'en sort avec cette deadline qui est Noël, là, ce week-end?
Noël, c'est terminé.
C'est
ça.
Noël, Noël, c'est terminé. Oui, on l'a enjambé.
On l'a enjambé, Noël, déjà. Non, mais c'est vrai, il y aura des trains. Bon, ouais. Peut-être que la moitié des trains.
Voilà.
Mais donc, les gens se sont organisés. Le Noël, on est déjà quasiment...
Après, en janvier.
On est dans la... Non, mais simplement, l'étape a passé. Moi, je me souviens de 68.
C'était hier.
Quand, c'était avant-hier. Je me souviens quand Georges Séguy, patron de la CGT, va chez Renault à l'Île-Seguin pour annoncer qu'il avait trouvé un accord avec Georges Pompidou et Jacques Chirac. Et à ce moment-là, il se fait huer et il dit « Bon, mes camarades... » Et il revient en disant « Bon, ça va pas. »
Bon, on s'arrête là, les grandes voix. Mais demain, ici, même heure, même endroit... Pour peut-être
pour
se dire les choses clairement, Édouard Philippe aura-t-il fait des annonces concrètes? Est-ce qu'il y aura véritablement du grain à moudre? On verra. En tout cas, pour l'instant, ce soir-là, Laurent Berger nous parle d'un désaccord.
Mais ce serait pas étonnant que demain soir, ils se mettent grosso modo d'accord sur une architecture, qu'on fasse une trêve et qu'on négocie ça début janvier.
Bon, oui. Écoutez, on se dit ça demain.
On essaye.
Et on écoute d'ici là Laurent Berger. Merci beaucoup les grandes voix.
Europe 1.